إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أخواتي في الله والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فما زلنا نقرأ كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ سليمان ابن عبد الله القصيري حفظه الله تعالى ووصلنا بحمد الله سبحانه وتعالى إلى باب الوقف وقال المؤلف رحمه الله الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم بحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والشاهد من الحديث قوله صدقة أو صدقة جارية فصدقة الجارية هي الوقف لأنه صدقة مستمرة ما بقي نفع الوقف donc poursuit inshallah wa ta'ala l'explication du livre منهج السالكين de l'imam السعدي رحمه الله تعالى avec donc le charh de Cheikh Sulaiman al-Qusayr hafidhahullah. Et on est arrivé au chapitre 2 de ce qu'on appelle al-waqf. Donc qu'est-ce que al-waqf? Il dit ici l'imam al-Sa'di rahimahullah huwa tahbisu al-asli wa tasbilu al-manafi'i. طيب تحبيس الأصل أي منع العين كالدار والشجر والأرض والسيارة يمنع نفسه من التصرف فيها لأنها خرجت عن ملكيته بالوقف ويجعلها محبوسة على أعمال البر التي أرادها فالوقف في هذا على العين donc la définition qu'a donné ici le Cheikh Saadi de الوقف en disant تحبيس Al-Asli. D'accord? Donc, ça, c'est la définition religieuse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, c'est le fait que la personne va empêcher une utilisation privée d'une chose, d'un bien, tel qu'une maison, une voiture. Ça peut être aussi un arbre, une terre. Donc il va s'interdire à lui-même d'utiliser ces biens-là qui à la base lui appartiennent, bien sûr. À la base, ils lui appartiennent, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va les donner en waqf. Il va en faire des waqf. D'accord? C'est-à-dire qu'il va en interdire l'utilisation de manière privée de ses différents biens, et même lui-même ne pourra plus les utiliser à son propre profit. Pourquoi? Parce que ces biens-là sortiront, donc, à ce moment-là, de sa possession et de sa propriété. Donc, il va faire de ces biens-là, que ce soit une voiture, une terre, un arbre, une maison, ou autre. Il va les donner, voyez, et les réserver que pour des actes de bienfaisance parmi ceux qu'il désire. Voyez, donc le waqfu ici, il concerne donc quelque chose qui est matériel, un bien. Voyez. وقوله وتسبيل المنافع. Ici, qu'est-ce que ça veut dire تسبيل المنافع? Donc, le منافع ou le منفعة, c'est les profits que génère ce bien, tel que le loyer d'une maison, ou les fruits d'une terre ou d'une culture. D'accord? Donc, تسبيل المنافع, c'est-à-dire que le propriétaire d'origine, il va dédier ou il va donner tous les profits et tous les fruits qui vont être générés par ses biens, eh bien, il va les réserver pour les actes de bienfaisance. D'accord? Donc, le waqf peut être ou peut concerner, peut toucher un bien particulier, mais il peut toucher les profits générés par ce bien ou les bénéfices. Voyez? Donc ça, c'est la définition de l'waqf. Elle est en arabe, elle est courte, mais on a besoin de, en français, on a besoin de détailler pour bien que l'on comprenne, inshallah. Mais retenez la définition en arabe, c'est tahbisul asl wa tasbilul manafi'. Puis il dit, et même Saadi, il dit, rahimahullah, et donc le waqfu, le fait de procéder à un waqf, par rapport à ses biens personnels de base, cela fait partie des meilleurs moyens de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et des plus bénéfiques. Bien sûr, à condition que cela soit fait, yani, de manière bienfaisante et que cela soit dénué de toute injustice. Et cela en vertu du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que vous connaissez tous, incha'Allah ta'ala, qui a dit, quand le serviteur meurt, ses œuvres sont interrompues, excepté trois choses. Une aumône ininterrompue, ou une science dont on profite, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Rapporté par l'imam Muslim, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu. Donc, dans ce hadith, le passage, yani, qui vient attester de ce qu'on est en train de parler maintenant, c'est sa parole, sadaqatin jariya, une aumône ininterrompue. Donc, l'aumône ininterrompue, qu'est-ce que c'est? C'est el waqfu. D'accord? Donc, quand la personne dédie un de ses biens pour al-waqf, pour yani, la communauté musulmane, pour les actes de bienfaisance, eh bien cela rentre dans le terme sadaqatun jariya, une aumône ininterrompue. Ça veut dire quoi ininterrompue? Ça veut dire que la personne, même, oui, vas-y, ça veut dire que même après ta mort, eh bien tu obtiens la récompense de cette aumône. D'accord? Donc toi tu as dédié par exemple un endroit qui va servir de mosquée pour les gens et tu vas le dédier pour que ce soit une mosquée pour les musulmans. Eh bien sache que tant que la mosquée est ouverte et tant que les gens prieront dedans, eh bien même après ta mort, eh bien tu recevras la pleine récompense de cet acte de bienfaisance. Voyez? Pourquoi? Parce que c'est une aumône qui est continue et qui va demeurer tant que ce waqf profitera aux gens. Na'am. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فعمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على أفضل وجوه الخير يصرف به ماله، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على الوقف. Donc il a été rapporté selon Ibn Omar qui a dit, Omar, c'est-à-dire son père, Omar a obtenu donc une terre à Khaybar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ici, il a été interrogé par Omar, qui lui a demandé donc un conseil sur la meilleure façon d'utiliser cette terre qu'il venait d'obtenir. Une façon d'obtenir le plus de hasanat, de bonnes actions, par le biais de cette terre. D'accord? Donc il a dit, oh messager d'Allah, j'ai reçu une terre à Khaybar, avant laquelle je n'avais jamais reçu une chose aussi avec autant de valeur. Avec autant de valeur et qui m'était aussi chère que cette terre. Yani pour Omar. Regardez, subhanallah, la foi des compagnons, radiallahu anhum, qui désiraient donner ce qui était le plus cher pour eux. Qui voulait donner ce qui était le plus cher pour eux. Et là, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si tu le veux, eh bien, donne-la en waqf. Et donne-la en aumône. Et donne ce qui provient, ou ce qui est généré par elle, en aumône. D'accord? Donc ici, le prophète, il a indiqué donc que la meilleure façon d'être récompensé par cela était de la donner en tant que waqf. D'ailleurs, et donc il dit Ibn Omar, et Omar donc l'a donné en aumône. Donc du coup, quand tu donnes une chose en waqf, eh bien la yuba asluha, ça veut dire que elle ne peut plus être vendue. D'accord, on verra les situations où elle pourra être revendue. Elle n'est pas non plus héritée, ça veut dire que par exemple ses héritiers, les héritiers de Omar, même après la mort de Omar, ne pourront pas hériter de cette terre, parce que c'est un waqf. D'accord? Et également, elle ne peut pas être donnée, bien sûr. Donc, il a donné en aumône aux pauvres. D'accord? Donc, on imagine qu'une terre pousse dedans des fruits, des légumes, etc., etc. Donc, il en a fait profiter aux pauvres, ainsi qu'à ses proches, ainsi que pour l'affranchissement des esclaves. Donc tu imagines qu'ils pouvaient vendre donc les fruits, les légumes, ou les choses qui poussent sur cette terre, afin de libérer et d'affranchir des esclaves. Et également pour ceux qui sont en voyage, et qui sont loin de chez eux, qui n'ont pas de rentrée d'argent, qui ont besoin d'aide financière. طيب, ou alors de l'authentier d'Allah tabarak wa ta'ala, pour être une cause que la parole d'Allah soit la plus haute, pour propager l'islam, pour propager la sunna. D'accord? Donc tout ça rentre dans les choses que le waqf peut servir à faire. Allah il fait également les invités, pour recevoir des invités, etc., qui viennent d'ailleurs. Et puis il dit, il n'y a pas de péché pour celui qui s'en occupe. Donc forcément, une terre, on imagine qu'elle a besoin de quelqu'un qui s'en occupe. Quelqu'un qui arrose,
quelqu'un qui est là pour faire, pour la, pour surveiller, pour faire le gardien, etc., qui va gérer l'entretien de cette terre, eh bien, celui-là, il n'y a pas de mal à ce qu'il en prenne de quoi manger, bien sûr, tout en restant dans la limite du convenable. Il peut aussi en prendre pour nourrir un ami à lui, il n'y a pas de mal, sans dépasser, encore une fois, les limites et sans dépasser ce que lui, il a dépensé. Parce que bien sûr, celui qui s'occupe et entretient, il va faire des dépenses. Donc il a le droit de prendre de la terre pour se rembourser et pour rembourser ce qu'il a dépensé dans le but donc d'entretenir cette terre. Donc ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc on voit dans ce hadith que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lui indiquer la meilleure, le meilleur acte de bienfaisance afin de dépenser cette terre-là dans le bien. Et le prophète, il lui a donc orienté clairement d'en faire quoi ? D'en faire un waqf. D'en faire un waqf. طيب. ثم قال الشيخ سعدي وأفضله أنفعه للمسلمين أي أفضل جهات الوقف هي الأنفع للمسلمين فإن كان الأنفع أن تكون في الفقراء فهو أفضل وإن كان الأنفع أن تكون في سبيل الله أو في رعاية الأيتام فهو أفضل. Donc c'est quoi le meilleur des waqf, parce qu'il y a plusieurs styles, plusieurs sortes de waqf. Il dit la meilleure, tout simplement, c'est celle qui sera le plus utile pour les musulmans. Celle qui sera le plus bénéfique pour les musulmans. D'ailleurs, donc, si le plus utile, par exemple, dans un lieu donné et dans une période donnée, c'est d'en faire profiter les pauvres, eh bien cela est mieux d'en faire profiter les pauvres. Si dans un lieu donné et une période donnée, le plus utile, c'est de la dédier et la réserver pour propager l'islam, pour aider la da'wa, pour que la parole d'Allah tabarak wa ta'ala soit la plus haute, eh bien cela sera meilleur. Si dans un lieu donné, une période donnée, il est meilleur et plus bénéfique d'en faire quelque chose qui va profiter aux orphelins, par exemple de dédier une maison entière, une maison, il y a un orphelinat, hein, pour recueillir les orphelins, etc., etc., bien cela sera meilleur. Donc ça va dépendre du coup de ce qui est le plus bénéfique à ce moment-là et dans cet endroit-là. طيب. وينعقد بالقول الدال على الوقف. أي ينعقد الوقف بكل لفظ يدل عليه. كوقفت وحبست وسبلت. فمتى أتى بواحدة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد. لأن هذه الألفاظ ثبت عرفا استعمالها للوقف. Donc comment le waqf, il va être en vigueur? Comment il va rentrer en vigueur? Et comment on va dire qu'à ce moment-là, ça y est, ce bien-là est devenu un waqf? Eh bien, par la parole, par une parole qui va nous faire comprendre que la personne a fait de tel ou tel bien un waqf. La simple parole. D'accord? Donc, par exemple, le fait de dire « waqaftu ». وقفت هذه الأرض. Donc j'ai mis en waqf cette terre. Ou alors حبست, ça aussi. حبست هذه السيارة. J'ai mis en waqf cette voiture. Ou سبلت هذه الدار. J'ai donné en waqf cette maison. Etc. etc. D'accord? Donc, quel que soit le verbe utilisé, un verbe qui nous indique clairement que cela est un waqf, à ce moment-là, eh bien le waqf, il rentre en vigueur et il est valide, alhamdoulillah. Donc quelle que soit l'expression utilisée, on n'a pas besoin donc du coup de rajouter une chose en plus, comme par exemple une signature ou quoi que ce soit, une simple parole est suffisante, parce qu'il est connu que ces paroles là nous font comprendre qu'il est permis à partir de là d'utiliser ces biens-là, voyez, dans un contexte de waqf. ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. فمصارف الوقف حسب ما يحدده الواقف مثلا إذن إذا قال يصرف في عمارة المساجد لم يجوز أن يصرف في غيرها وكذلك تعتبر شروط الواقف ومحل اعتبار مصارف الوقف وشروط الواقف ما لم تخالف الشرع لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة وأما إذا شرط الواقف شرطا لا يوافق الشرع فلا يجوز ولا ينفذ مثل أن يوقف على الملاهي أو على نشر كتب الفساد والإلحاد Puis dit l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala que on revient au niveau des conditions, et bien aux conditions que celui qui les a mis donc en waqf a établi à la base. On revient à ces conditions pour savoir à qui va profiter ce bien-là. D'accord ? Tant que les conditions de la personne soient conformes à la législation d'Allah tabarak wa ta'ala, bien sûr. D'accord ? Donc les catégories de gens qui vont pouvoir profiter de ce waqf, eh bien, vont dépendre des conditions qui avaient été mises par al-waqif. Donc al-waqif, c'est celui à qui appartenait à la base ce bien-là et qui a donné son bien en tant que waqf. Par exemple, si la personne a dédié un certain bien ou un certain profit pour la construction des mosquées, eh bien, on n'aura pas le droit d'utiliser ce bien-là, cet argent-là ou ce bien-là pour autre chose que la construction des mosquées. Voyez ? Naam. Si la personne l'a dédié pour les orphelins, on n'aura pas le droit d'utiliser ce bien-là pour autre chose que les orphelins. Etc. Etc. Voyez ? Naam. Et bien sûr, on a dit encore une fois, les conditions sont bien sûr respectées tant qu'elles ne contredisent pas la charia d'Allah tabarak wa ta'ala. D'accord ? Donc on voit ici que Omar lui-même, radiallahu anhu, il avait émis des conditions et qui ont été honorées et qu'il est obligatoire d'honorer et de respecter, bien sûr, car s'il n'était pas obligatoire de respecter les conditions de la personne, il n'y aurait aucun intérêt à ce que Omar fasse ou émette des conditions. D'accord ? Quant aux conditions qui ne sont pas conformes à la législation d'Allah tabarak wa ta'ala, il est bien sûr interdit de les respecter ou de les appliquer. D'accord ? Comme par exemple, la personne désire dédier un endroit, un local, pour en faire une salle de jeu. Une salle de jeu interdite, une salle de pari, une salle de où les gens vont venir boire du café, écouter de la musique. Dans ce cas-là, bien sûr, il sera interdit d'honorer ce genre de conditions ou de volonté. Ou alors quelqu'un va dédier un endroit pour propager, il va dédier un profit économique pour propager des livres d'innovateurs ou des livres de mécréants ou des livres qui vont diffuser et amener la dépravation et la débauche. Bien sûr, ça c'est totalement interdit de respecter ce genre de conditions. طيب ثم يقول ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله طيب أي لا يجوز أن يباع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه فإنه يباع ويجعل ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى غرض الواقف فإن تعذر مثله ففي بعض مثله فلو انهدم مسجد وبه خشب أو أثاث ونحو فلا يحتاج إليه في المسجد الجديد فإنها تباع ويجعل ثمنها ضمن نفقة المسجد الجديد طيب Et pour finir le chapitre, il dit l'auteur, رحمه الله تعالى, que ce waqf ne peut être vendu. On a dit, ne peut pas être vendu, sauf si bien sûr, son utilité n'existe plus. Ou ses profits n'existent plus. Donc la chose pourra être vendue à ce moment-là. Mais on va utiliser donc l'argent ou le bien ou la valeur de cette chose qu'on a vendue, de ce waqf qui a été vendu, on va l'utiliser et on va le mettre dans la même chose, mais ailleurs. ou dans un endroit, ou dans un bien qui va être profitable, un bien qui est identique, ou yani, une partie de ce bien-là. On va expliquer, inchallah. Il dit, le Cheikh Suleiman, hafidhahullah ta'ala, il dit, c'est-à-dire qu'il n'a pas permis donc, de vendre al-waqf, sauf si on a dit ses profits ou ses bénéfices ou son utilité n'existent plus. Donc la chose pourra être vendue à ce moment-là et on va utiliser donc ce qu'on a gagné dans cette vente et on va le mettre dans une chose qui est similaire. Parce que cela sera plus proche de la volonté de al-waqif, de celui qui a donné ce bien en tant que waqf à la base. Taïeb, par exemple. Et si on n'arrive pas à remettre cet argent-là dans la totalité d'un bien similaire, eh bien on peut mettre une partie seulement. C'est-à-dire, par exemple, une mosquée, elle a été détruite. Une mosquée a été détruite, et donc les musulmans ne pouvaient plus prier à l'intérieur. Et dans cette mosquée, du coup, il y avait du bois, il y avait des meubles, il y avait des choses, d'accord, dans la mosquée. Et donc on va vendre le tout. Ou alors plutôt le bois qu'il y avait dans l'ancienne mosquée, les meubles qu'il y avait dans l'ancienne mosquée, les différentes choses qu'il y avait dans l'ancienne, eh bien la nouvelle mosquée n'en a pas besoin. Elle n'a pas besoin de ces meubles, de ces choses qui sont peut-être abîmées ou détériorées ou trop anciennes ou trop vieilles. D'accord ? Eh bien on pourra dans ce cas-là vendre ce bois, ces meubles, etc., on les vend, voyez, et on va utiliser donc ce bien-là, et on va la mettre, on va l'utiliser pour la construction de la nouvelle mosquée.
Et on ne vend pas la mosquée.
Hmm?
La mosquée, alors.
La première ou la deuxième?
La première.
Non, la première, elle est détruite, ça y est.
Ah.
Elle est détruite, d'accord? Donc son utilité, elle a disparu, elle n'est plus. Mais, on peut encore vendre les choses qu'on peut vendre, ou utiliser les choses qu'on peut utiliser, mais si les choses qu'on peut utiliser ne servent plus, ou ne la nouvelle mosquée n'en a plus besoin, on a le droit de les vendre pour utiliser l'argent, d'accord, pour la nouvelle mosquée. Vous voyez? Pour la nouvelle mosquée. Voilà, Kevin. Alhamdulillah. Donc on a terminé ici le chapitre concernant Al-Waqf. Et on verra la semaine prochaine, Inch'Allah, le chapitre de Al-Hiba, Al-Atiya, Al-Wasiya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa subhanakallahum bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.